Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, l'information de la nuit sur laquelle nous reviendrons amplement. C'est la fin de la traque. Chérif Chekat, le principal suspect de l'attaque de Strasbourg, a été abattu hier soir par une brigade de police qui tentait de l'interpeller. Toutes les informations à suivre dans le journal. Il est 4h58, nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. En fonction d'où vous vous trouvez sur le territoire, il fait à peu près entre moins 10 et moins 5 degrés. Vous venez de vous rendre compte qu'il vous manque encore 3 cadeaux sur les listes du Père Noël de votre petit dernier et que vous n'aurez pas le temps de vous en occuper aujourd'hui car vous avez une grosse journée de travail. Oui, ce tableau est déprimant, mais il y a une bonne nouvelle. Si on est vendredi, par définition, demain, c'est samedi.
Toute la semaine depuis lundi, j'attends le samedi, j'attends le samedi. Et quand c'est samedi, je me dis, demain je dors jusqu'à midi.
Non, et ben demain, on a dit. Il faut tenir encore un peu. Tenez encore un peu. Oui, chers auditeurs, je vous présente mes deux acolytes. Un peu émoussés en fin de semaine. Oui, mais toujours fidèle au poste. Eva Rock, Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour
Nos auditeurs s'interrogent. Quelle question Eva va-t-elle nous poser aujourd'hui? Et surtout, réussira-t-elle à la formuler sans se planter grammaticalement, comme mercredi?
Et le 12 décembre 1821, naissait, est-ce que vous vous souvenez de qui?
Non, on ne se souvient pas de qui, éventuellement on se souvient qui. Bref, ce matin, Eva, quelle est la question du jour?
Passez à Céline Dacosta.
Vous n'avez pas trouvé de question aujourd'hui?
Si, j'ai une question. Mais j'ai
là, elle est chafouin, là, maintenant.
Voilà, je suis chafouin.
Voilà. Alors, Céline, nous ne connaîtrons pas la question tout de suite. Nous la découvrirons tout à l'heure.
Suspense.
Sachant qu'hier, c'était quel est votre Haribo préféré? En même temps, on peut avancer. À vos côtés, gonflé à bloc de Berroca Boost, Céline Dacosta aborde l'hiver avec la sérénité des grands dopés. Céline, on se les pèle un peu ce matin, non?
Ah oui, c'est le cas de dire. Oui. Il va faire froid encore aujourd'hui. Et demain, dimanche, ça sera à nouveau un peu plus doux. Aujourd'hui, on aura quand même beaucoup de soleil, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, on est dans le négatif quand même en termes de.
On est dans le négatif, mais on aura du soleil. Écoutez, on peut pas tout avoir. Ce que vous voulez que je vous dise.
Vous énervez pas. Mais je suis la cible de ce matin, c'est pas possible. Heureusement, pour vous réchauffer, il y a, vous le savez. Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'info sans jamais oublier d'en rire. Et allez, chères auditrices, et à toutes celles d'entre vous qui ont du mal à ouvrir l'œil en ce vendredi matin, je rappelle que c'est le dernier jour avant le week-end et avec William Scheller, je vous dis. Encore un petit effort, debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le vendredi 14 décembre. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 5h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 14 décembre, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Les titres.
La chasse à l'homme est terminée, elle aura duré 48 heures. Chérif Chekat, l'auteur présumé de l'attaque à Strasbourg, est mort. Tué hier soir par des tirs de riposte des forces de l'ordre qui tentaient de l'interpeller. Cela s'est passé dans le quartier de l'enfance du tueur présumé au sud du centre-ville où il se cachait. Il avait été signalé aux autorités, reconnu par une femme grâce à l'appel à témoins. Et peu après le décès de l'assaillant présumé, l'agence de propagande du groupe État islamique a revendiqué l'acte.
Europe 1.
Chérif Chekat est mort. Après 48 heures de chasse à l'homme, les forces de l'ordre ont abattu hier soir l'auteur présumé des coups de feu mardi soir, non loin du marché de Noël de Strasbourg. 3 morts, 13 blessés. Abattu au Neudorf, quartier au sud du centre-ville, le quartier de son enfance où il se cachait. L'assaillant présumé se trouvait dans une rue, la rue du Lazaret précisément. 3 policiers tentent de l'interpeller. Il leur tire alors dessus. Les officiers ripostent, le touchant mortellement. Il est alors environ 21h. Christelle, une habitante de cette rue du Lazaret, a assisté à toute la scène.
Il y a eu une rafale de tir, quoi. Et donc, on a vu la police bloquer l'entrée et un policier mettre en joue du côté, vers notre côté, si vous voulez. On a voulu ouvrir pour regarder et puis il y a la police qui nous a dit de fermer quasi tout de suite les fenêtres et les volets, en fait. On avait de toute façon éteint les lumières et tout quand on a entendu la fusillade, là. Il y a eu 5-6 tirs d'affilée, comme ça. Et donc, on voyait leurs lampes torches qu'ils avaient sur les fusils, quoi, en fait. Nous, on avait de toute façon tout éteint. Et après, on a suivi un peu les informations pour voir s'il en était. Et c'est là qu'on a entendu qu'il l'avait abattu, en fait.
Des propos recueillis par Pauline Jacquot pour Europe 1. Chérif Chekat avait été signalé quelques heures plus tôt par une femme l'ayant reconnu suite à l'appel à témoins. Et peu après sa mort, l'agence de propagande du groupe État islamique a affirmé que l'homme, je cite, faisait partie de ses soldats.
Pour les habitants, la mort de l'assaillant est un soulagement.
Les personnes qui se trouvaient proches de l'endroit où il a été abattu ont applaudi les forces de l'ordre. Par ailleurs, félicité par un tweet publié sur le compte d'Emmanuel Macron et de vive voix par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu hier soir dans le quartier du Neudorf où le tueur a été abattu.
Je suis venu remercier, féliciter nos forces de sécurité qui sont totalement mobilisées, totalement engagées. Vous le savez, dans un contexte difficile, de nombreux conflits, de nombreuses manifestations font que nos forces, depuis de longues semaines, sont mobilisées pour protéger les Français dans le cadre des conflits sociaux et des gilets jaunes, pour protéger les gilets jaunes dans toutes les manifestations organisées. Et pourtant, quand on est confronté à des actes aussi violents que celui qui a frappé la France, qui a frappé Strasbourg mardi, ils savent répondre présent. Il est important que nous puissions les encourager, les remercier. C'est un combat qu'ils ont mené heure à heure, minute par minute, presque sans s'arrêter depuis mardi soir. Je pense au moment présent, évidemment, aux victimes, je pense aux blessés, je pense à leurs familles, je pense à toutes celles et tous ceux qui, en France, mais au-delà dans le monde, ont été meurtris par ce qui s'est passé ici à Strasbourg. Mais je voulais être à leur côté. Je suis fier de ces femmes, de ces hommes qui, au quotidien, assurent la sécurité des Français.
Christophe Castaner au micro Europe 1 de Mathieu Bock.
Oui, le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara ce matin 8h15 sur Europe.
Les Strasbourgeois tentent désormais de reprendre le cours normal de la vie quotidienne. Hier soir, quelques 1500 personnes se sont rassemblées dans la cathédrale pour un hommage aux victimes. Aujourd'hui, après deux jours de fermeture, le marché de Noël va rouvrir ses portes à partir de 11h. Je vous rappelle donc l'information principale ce matin. Shérif Chekat, l'assaillant présumé de Strasbourg mardi soir, a été abattu hier par les forces de l'ordre dans le quartier du Neudorf au sud du centre-ville. Après deux jours de chasse à l'homme.
Et à 6h20, nous serons en ligne depuis Strasbourg avec Alain Fontanelle, le premier adjoint à la mairie de la ville.
Europe 1, il est 5h05.
Dans le reste de l'actualité, cette question: quelle sera l'ampleur demain de la mobilisation des Gilets jaunes, 28e jour de contestation? L'exécutif, comme des syndicats des forces de l'ordre, appelle à ne pas manifester, fin de non-recevoir de la part de certains contestataires qui restent déterminés. Sans surprise, la motion de censure présentée hier par la gauche a été largement rejetée à l'Assemblée. Sommet européen extraordinaire à Bruxelles, sur la table, le Brexit. Theresa May tente de renégocier l'accord récemment obtenu. Pour l'heure, elle n'a pas convaincu les 27. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, annonce que l'UE se prépare à la possibilité d'un no deal, une sortie des Britanniques de l'Europe sans accord. Et puis ça y est, en Irlande, le Parlement a adopté hier soir le projet de loi qui légalise l'avortement, après en mai dernier un oui historique par référendum à l'autorisation de l'IVG.
Voici pour l'essentiel de l'actualité. Et Montaigne disait « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». 4 siècles plus tard, Jean-Claude Van Damme ajoutait « Mieux vaut un muscle bien gonflé qu'un muscle tout mou ». On passe au journal des sports, Léon. Oui, tu sais,
on cite les grands auteurs.
Que j'ai dégoté comme ça.
C'est pas mal.
Sur Internet. À la une, grande première pour le foot à Rennes.
Les Rennais qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa, la deuxième Coupe d'Europe de la hiérarchie. Ces Bretons, deuxième de leur groupe à l'issue d'un premier tour bouclé hier soir, avec l'ultime victoire dont ils avaient besoin pour passer, 2-0 à domicile face au Kazakh d'Astana. Deux buts du jeune attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, 20 ans. Écoutez son compère de l'attaque, Mbaye Niang, ravi d'avoir offert aux 24 500 supporters présents hier soir un moment historique.
Ambiance particulière, parce que même contre Paris, je ne pense pas que l'ambiance a été comme ça. Maintenant, on en avait besoin parce qu'on sait que voilà, c'est des grands soirs. L'année dernière, le public marseillais les a ramenés jusqu'en finale, donc on sait que combien le public est important, donc on les remercie et on espère les rendre fiers encore beaucoup.
Des propos recueillis par Loïc Folliot. Rennes, seul club français qualifié. Ils connaîtront lundi leur adversaire, tirage au sort. Les Bordelais sont éliminés malgré une ultime victoire hier soir 1-0 à Copenhague. Et puis les Marseillais, eux, alors ils avaient déjà quitté la compétition avant
merci.
Hier.
On peut enchaîner,
et
Jérôme.
Triste tableau final.
Oui.
Battu 3-1 par les Chypriotes de Limassol. Il faut dire que les Marseillais ont été plombés très
exactement.
Rapidement par l'exclusion sur carton rouge
du
défenseur Camara. Le tout dans un vélodrome.
Non, c'est pas bien.
Garni d'à peine un peu plus de 9000 spectateurs.
Voilà, le handball et les Françaises. Le handball et les Françaises sont à Paris, Jérôme.
Oui, Paris, théâtre de l'ultime phase de l'Euro, demi-finale. Ce soir, Pays-Bas-France, match à Bercy, salle que les Bleus espèrent remplie ce soir de 15 000 spectateurs. D'autant qu'en handball féminin, les confrontations franco-néerlandaises sont souvent pimentées. Les deux dernières se sont jouées à un point. dont la dernière remportée par les Bleus en demi-finale du tournoi olympique. Alors cette année, les Néerlandaises ne peuvent pas compter sur plusieurs joueuses majeures, absentes ou en méforme. Mais les craintes subsistent côté bleu. Écoutez la capitaine Siraba Dembélé.
Ce genre de match avec des équipes qui sont soi-disant affaiblies, ce sont toujours des matchs pièges. L'analyse vidéo va être très importante et surtout être focus sur des joueuses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de jouer quand on joue l'équipe de Pays-Bas et qui ont pris une autre place dans cette équipe.
Propos recueillis par Christophe Lamar, Pays-Bas-France, coup d'envoi 21h.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
De la durée du nouveau contrat, 2 ans, de Sébastien Loeb à 44 ans, le nonuple champion du monde des rallyes, s'est officiellement engagé hier avec la marque sud-coréenne Hyundai. Il participera l'année prochaine à 6 des 14 courses du championnat du monde.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Céline pour Jérôme, hip hip hip.
C'est Aka Yakamura.
Mais non,
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, si certains se contentent de se lamenter sur leur sort sans jamais rien tenter, d'autres, plus courageux, répondent à l'appel lancé par François Valéry.
Changez de vie.
Chaque matin, à 5h10 dans Fallait oser, Europe 1 vous fait découvrir un homme ou une femme qui a osé changer de vie. Ce matin, Émilie, une secrétaire devenue éleveuse de chiens.
Mathieu Noël sur Europe 1.
5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent dans la joie et la bonne humeur avec Eva Roque et Céline Dacosta. L'heure est venue de faire un point sur la météo avec vous, Céline. Oh, qu'il fait froid! Clac, 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 clac.
Ça, c'est vrai, oui. On a
vu cette intimidation du froid.
Formidable.
Mais moi,
très
je vous fais vivre
on
les sensations.
Oui, on a dégelé sur une bonne partie nord du pays jusqu'au centre-est. Les côtes bretonnes sont épargnées. Les températures vont de moins 6 à 0 degrés, 5 à 12 pour la moitié sud. Et cet après-midi, on ne dépassera pas les 6 degrés sur la moitié nord et le centre-est, hormis Brest où il fera 11 degrés avec la pluie qui revient. La moyenne sera de 6 à 13 degrés sur la moitié sud. Côté ciel, ce sera relativement ensoleillé. Encore un petit peu de pluie ce matin entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Et une nouvelle perturbation, je vous en parle, arrivera sur la pointe bretonne avec de faibles averses à la mi-journée pour les autres du soleil.
Merci Céline. L'heure pour nos auditeurs d'apporter des réponses à la question que nous n'avons pas posée.
Alors,
ça c'est vraiment fort. Enfin votre question Eva,
alors,
si vous le voulez bien.
Je vous explique. Selon un sondage, seuls 20% des Français partent en vacances à Noël. Est-ce que c'est votre cas? Et si vous avez la chance de partir, vous partez où? Faites-nous rêver. Eh bien, Jean-Sébastien nous dit « Moi, je suis en vacances décalées parce qu'elles se terminent ce dimanche, ici, en France. » En fait, il vit à Madagascar et nous écoute depuis Madagascar tous les jours. Et Olivier nous dit « Noël en famille dans la Drôme, puis Berlin pour le réveillon de fin d'année où l'on écoute aussi Europe 1, mais sur Internet. »
On a une auditrice, Céline Acosta, qui a quelque chose à ajouter.
« Je vais dans le Loir-et-Cher.
Ah, » Mes parents habitent dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière.
Mais non.
Vous continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, évidemment.
Continuez, continuez, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, vous informer, vous divertir et si possible aussi vous inspirer. Chaque matin dans Fallait oser, on vous propose le portrait de quelqu'un qui un jour a dit stop, je change de vie. Aujourd'hui, le témoignage d'Émilie Michalet, 27 ans. Elle a débuté sa vie professionnelle comme secrétaire, mais la vie de bureau, c'était pas vraiment son truc. Elle sentait qu'elle avait besoin de travailler au grand air avec des animaux.
Fallait oser.
J'ai toujours eu des chiens, donc j'ai toujours vécu avec eux. Voilà, je suis une grande amoureuse des animaux et des chiens en particulier parce qu'ils prennent une place, je trouve, très importante dans notre vie. Mais quand on est élève et qu'on va voir les professeurs, les conseillers d'orientation et qu'on dit qu'on veut travailler avec les animaux, on nous répond oui, il y a vétérinaire. T'as pas des bonnes notes? Ah bah ça va être compliqué. Et à part vétérinaire, tu sais, il n'y a pas beaucoup de débouchés.
Alors après avoir passé son diplôme d'éducateur canin, Émilie a lancé son élevage de chiens il y a 6 mois. Elle élève des chiens de race Fila de San Miguel. C'est un chien qu'on lui a offert au départ en cadeau de mariage.
Oui, ces chiens ressemblent à des dogs allemands avec des oreilles arrondies, des chiens de taille moyenne. Ce métier d'éducatrice canine, c'est vraiment un métier passion qui exige aussi un bel investissement personnel.
Alors, si je ne peux pas dire que ça a été simple, c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de travaux pour aménager les locaux, mais ça en valait vraiment la peine. Vraiment, si on a envie, ça se fait sans problème.
Pour découvrir l'élevage d'Émilie, il faut aller au domaine de la Torcelle à Fontenelle, près de Dijon. Elle assure aussi un service de pension pour chiens et chats.
Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner d'un changement de vie ou d'un défi que vous êtes fixé, eh bien
vous
nous écrivez.
Aimez les chiens ou les chats.
Exactement, vous nous écrivez sur Europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info et l'actu se tournent autour comme deux adolescents en pleine explosion hormonale. À suivre, tous nos conseils culture et nos idées de sortie pour un week-end réussi. Et puis notre page santé avec notre séquence bibliothérapie du vendredi, un suppo et on lit. Est-il possible de se prémunir ou en tout cas minimiser le risque de cancer simplement en modifiant notre mode de vie, alimentation, pratique sportive? Le docteur Ichou a lu pour nous un livre en forme de guide anti-cancer au quotidien. Parmi les principaux conseils, manger moins gras, arrêter de fumer le plus tôt possible.
Et puis utiliser le make-up de Kylie Jenner.
Oui, même, commencez même par là, à mon avis. En attendant, je vous propose un peu de maçonnerie. Si on mettait une autre brique dans le mur, Eva, passez-moi la truelle. Pink Floyd sur Europe 1. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Floyd, Another Brick in the Wall, alors que nous discutons de l'opportunité de participer à l'émission N'oubliez pas les paroles, oui. Où Céline Dacosta ferait un malheur.
Oh là là, j'excellerai.
Et moi
pourriez...
non, mais Céline,
non, moi,
oui. On y réfléchit, on vous dit ça bientôt.
Et il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Sharif Shekat est mort. L'assaillant qui a tué 3 personnes mardi à Strasbourg a été abattu hier soir par des membres des forces de l'ordre qui tentaient de l'interpeller. Ça s'est passé dans le quartier du Neudorf, au sud du centre-ville, le quartier d'enfance du terroriste. Les autorités avaient été alertées dans l'après-midi par une femme qui l'avait reconnue grâce à l'appel à témoins. Quelques heures après la mort de Sharif Shekat, l'agence de propagande du groupe État islamique a affirmé que l'homme, je cite, faisait partie de ses soldats. Emmanuel Macron a félicité hier soir le travail des forces de l'ordre, tout comme Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui sera d'ailleurs l'invité ce matin d'Audrey Crespo. Pomara sur Europe 1 à 8h15.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce vendredi 14 décembre et tout de suite on retrouve celui qui connaît bien les chevaux, mais qui connaît aussi très bien Eva Rock.
Je sais qu'elle a été préparée avec soin et minutie, où depuis son arrivée, elle affiche gaieté et bien-être.
Oui, bah ça c'est parce que tu l'as pas vu à 3h du mat. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 216 Beauloiseau-Fort. Volontairement ménagée depuis plusieurs mois en vue de ce meeting d'hiver, elle vient d'effectuer deux bonnes courses de rentrée à Vincennes, nécessaires pour parfaire sa condition physique. Désormais proche de son meilleur niveau, cette saisonnière, toujours extra à cette époque de l'année, trouve ici des conditions de course particulièrement favorables qui devraient lui permettre de renouer avec la victoire qui lui échappe depuis plus d'un an. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 16, Beauloiseau-Fort.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et l'heure est venue. L'heure pour les membres de la colloque DLC de se retrouver autour d'un copieux petit déjeuner pour parcourir la presse du jour, certes, mais aussi pour partager leur joie et leur peine. À l'instar d'Eva Rock, qui ce matin arborait une mine défaite alors qu'elle faisait défiler sur son téléphone les fiches de ses derniers matchs Tinder, sous l'œil compatissant de Céline.
C'était des vieux, je savais pas. Ah, il est très très moche, oui.
Bref, Eva se disait...
J'ai besoin d'amour.
Elle était sur le point de se résigner quand, soudain, surgissant dans le salon, vêtue d'un simple slip kangourou et d'un club de mini-golf qui l'agitait au-dessus de sa tête, elle aperçut Jérôme Lacroix, qui s'exclama avec cette assurance qui séduit tant chez les vrais Latin lovers.
Il y a des petits minous qui ont de la chance.
Ah, c'est bon de savoir qu'on peut compter sur ses amis. Bref, maintenant que tout le monde est content, on peut passer au pressing. Ah oui, excusez-moi, mais les temps sont durs.
J'en reste sans, moi.
Les temps dans l'actualité sont durs, les amis, il faut bien rire un peu. Notre revue de presse en mode zapping, d'ailleurs, c'est moins drôle. Ce matin, deux sujets, évidemment, à la une de vos journaux. La mort du terroriste de Strasbourg et les gilets jaunes. Sur le premier sujet, le Parisien et le Figaro titrent ainsi « Abattu par la police ». Quant à la crise sociale, Libé a choisi un jeu de mots. « Gilet ou j'y vais pas ».
Ah ouais.
Pas
oui.
Mal, toujours en pointe sur les jeux de mots Libé. On notera également le titre inquiétant des Échos. COP24, d'émissions planétaires sur le climat. Et vous, mes formidables fouineurs, qu'avez-vous repéré dans la presse du jour? Eva, on commence par vous.
J'ai pas une très bonne nouvelle ce matin.
Oh ouais, non, mais on n'a pas envie, on est vendredi.
Enfin, c'est surtout les Échos qui sont porteurs d'une triste information. La rentrée littéraire avec ses 567 romans a été un échec, pour ne pas dire un flop magistral, raconte Véronique Richebois.
Ah bon ?
Certains libraires en viennent même à s'interroger sur l'intérêt d'une rentrée littéraire. Mmh. Ainsi, une chute de 8% des ventes de romans au troisième trimestre a été enregistrée. Et en octobre, la littérature grand format baissait de 13%. Alors, comment expliquer cette situation ? Juliette Jost, qui est éditrice chez Grasset, dit « Le livre n'était pas au centre du débat cet automne et il n'y a pas eu d'œuvre magistrale en cette rentrée littéraire. » Philippe Robinet, qui est PDG de Calman Levy, parle, lui, d'une concurrence culturelle accrue. Avant la concurrence, contre les livres, c'était les CD et les DVD. Aujourd'hui, c'est les CD, les DVD, mais aussi Netflix, les séries addictives, les jeux vidéo, etc. Voilà. Alors, heureusement, l'effet prix a fonctionné. Vous savez, la dégringolade des ventes s'est en effet un peu calmée après notamment la remise du prix Goncourt. Généralement, s'ensuit d'ailleurs un second pic de vente avec Noël. Sauf que cette année, c'est mal barré. Et pourquoi, d'après vous? Vous n'êtes plus avec moi.
Mais si, mais pourquoi, mais aucune idée. On ne sait pas.
Vous
ne
savez
pas,
c'est même étrange. La crise des gilets jaunes.
Ah oui,
ça a eu un impact.
Et oui, parce que la mobilisation de samedi dernier, par exemple, a entraîné un recul des ventes de livres de près de 14%, tout ouvrage confondu, des chiffres donnés par l'Observatoire de la librairie. Dans ce contexte, et même si aucun chiffre officiel n'est publié, Amazon apparaît comme le grand gagnant du conflit, avec une hausse de 30% de ses ventes le week-end dernier. Pas très réjouissant donc pour le secteur du livre. En même temps, sincèrement, peut-être que 567 romans pour une rentrée.
Oui, tout à l'heure, j'ai cru que vous disiez 167. Je me suis dit, c'est une petite rentrée littéraire. Non,
567, effectivement. Ça fait peut-être un peu trop. Hein. Voilà, c'est à lire dans les Échos.
Mais alors, dans les Échos, vous avez choisi cet article qui est intéressant. Vous ne pouvez pas me soupçonner de ne pas m'intéresser à la littérature. Et cela dit, vous n'avez pas un mot sur cette COP24 d'émissions planétaires sur le climat où ça patine dans la semoule à la
COP24. Parce que vous savez quoi, on est super organisé.
Ah.
Et Céline Dacosta va vous en parler.
Et non. Parce que je n'ai pas choisi ce sujet-là, en fait.
Parce qu'en fait, on avait choisi plein de sujets.
Très, très bon,
mais pas
celui-là. Radio.
Et c'est vrai.
Alors, c'est dommage que je n'ai pas le papier. On a envie de parler de cette Greta.
Ne paniquez pas, les filles. Vous savez quoi? On en parlera lundi. Parce que le climat, c'est toujours une urgence.
Juste en deux secondes, dans le cadre de la COP24, effectivement, il y a une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Greta et qui a fait un appel, une mobilisation mondiale pour une journée de grève
pour lutter contre le réchauffement climatique et alerter les gens sur les effets désastreux de l'effet
et
de serre.
Et alerter les États aussi sur le fait qu'il est urgent de conclure des accords.
On y a pensé. On avait évoqué ce sujet.
Mais voilà. À quoi d'autre avez-vous pensé, Céline?
Eh bien, j'ai trouvé une belle histoire dans Aujourd'hui en France qui se passe à Cambron dans le Tarn. Vous voyez, c'est bien aussi. Où on fait la connaissance de Virginie Bibal. Elle a 35 ans. Ça fait 17 ans qu'elle est tétraplégique à la suite d'un accident de voiture. La belle histoire, c'est que fin octobre, elle a appris qu'elle ferait partie des 6 Français à bénéficier d'un essai clinique à l'hôpital Tongrin de Kunming en Chine, aux côtés de 6 Chinois. Alors, c'est une opération qui est prévue en mars, qui consiste à réimplanter dans la moelle épinière des patients, au niveau de leurs lésions, de la graisse prélevée dans leur abdomen, dont les cellules souches auront été activées. Et Virginie, qui pour se préparer à ce grand voyage est en train d'apprendre le mandarin, nous dit la greffe est censée générer des connexions nerveuses et grâce à 6 mois de rééducation minimum intensive, nous pourrons peut-être marcher de nouveau. Vous voyez, c'est quand
incroyable.
Même un bel espoir.
Ouais.
Mais d'ici là, elle doit surtout réunir, comme les autres patients, la somme de 350 000 euros sur les 720 000 nécessaires à la réalisation de l'opération. C'est une association, un Neurogel en marche reconnu d'intérêt public qui porte le projet. Un dîner est déjà organisé le samedi 16 février avec une vente de fleurs pour récolter des sous. Ça me paraît bien peu. Mais
oui,
si vous voulez...
Vente de fleurs, il faudrait peut-être faire venir Mbappé ou demander une contribution.
Ah ben c'est ça, voilà. Mais si vous voulez aider Virginie dont le rêve est juste d'aller danser ou de porter une jupe à nouveau, eh bien vous pouvez aussi faire un don à l'association via leur site neurogelenmarche.org. Sur l'article, il y a également l'adresse si vous voulez envoyer un chèque postal. Je sais que les temps sont durs, mais si il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent aider Virginie, on espère en tout cas de tout cœur que ça va fonctionner. C'est à lire dans Aujourd'hui en France.
Merci beaucoup Céline Dacosta. Jérôme Lacroix, est-ce que vous nous parlez du climat et de la
COP24? Je vous parle ce matin de Little Foot. Alors, c'est pas du sport. Hein, c'est de la paléontologie. Little Foot, c'est ce squelette exceptionnel, unique, le plus extraordinaire squelette en fait d'Australopithèque dont l'humanité dispose.
Australopithèque, c'est Lucie?
Oui.
Je vérifie.
Vieux de plus de 3,5 millions d'années, il est complet. Et voilà que 24 ans après sa découverte en Afrique du Sud, il commence enfin à livrer ses premiers secrets aux scientifiques. C'est ce que nous racontent ce matin les pages Science du Figaro. Alors justement, je vous disais, Little Foot est complet à 90%. Et en comparaison, justement, Lucie, elle était complète à 40% seulement. Alors je dis complet, je devrais dire complète, parce que Little Foot était une femme assez âgée, si l'on en juge l'état de ses dents, très usée, nous dit le Figaro, et elle était un peu plus grande que Lucie, 1m30, contre 1m07. Alors, Lucie, c'était bien...
Australopithèque.
Alors, pourquoi Little Foot est-elle si capitale pour nous apprendre qui nous sommes et d'où nous venons, nous? Eh bien, parce qu'elle faisait partie, justement, de ces Australopithèques sur Terre, donc, il y a entre 4 et 2 millions d'années. Et sans être des Homo erectus qu'on suivit, ben, ils nous ressemblent beaucoup. Alors, ils passaient encore un peu de temps dans les arbres, mais ils sont complètement bipèdes, ils marchent bien redressés, aussi bien que vous et moi, nous dit le Figaro, sans être penchés en avant ou avec les jambes pliées. Seule différence, leurs bras un peu plus longs les empêchaient de porter des charges trop lourdes. Voilà, les scientifiques, ils ont ici pour la première fois la possibilité d'étudier un Australopithèque sous toutes les coutures, le crâne, les jambes, les bras, mesurer tout cela et constater les évolutions. Alors ce sera un travail de fourmi, hein, bien sûr, mais qui ne fait pas peur aux scientifiques parce que déjà, rien que pour mettre à jour le squelette, ils ont passé ces dernières années des milliers et des milliers d'heures à extraire patiemment des centaines de petits bouts d'eau fossilisés dans la solide roche africaine.
Une bien belle histoire, Jérôme Lacroix, et que de progression entre l'Australopithèque et l'Homo sapiens sapiens. On est passé de 1m07, 1m30 à parfois 1m80. Bon, chez le Jérôme Lacroix, c'est plutôt 1m62, mais néanmoins quand même une belle progression au cours des années.
Tout ça pour vous moquer de sa taille.
Oui, tout ça pour finir sur une mesquinerie.
Oui.
Je suis vraiment une boule de vis.
Voilà.
Merci Jérôme, merci à tous pour ces articles passionnants sur la COP24. Le pressing referme ses portes et je peux vous dire, moi qui le connais bien ce pressing, qu'il a déjà hâte qu'on soit lundi. Christophe Pressing, délicat.
Europe 1.
Il est 5h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuent avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Époustouflant réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h26, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, l'heure de faire un point sur la météo de ce 14 décembre. Une journée encore très très froide.
Oui, et ce sera le cas encore demain avant un redout dimanche. On va en parler dans un instant. Ce matin, on a par exemple dégelé un petit peu partout du nord-est au centre-est. Et puis, moins 7 degrés à Nevers, moins 5 à Châlons-en-Champagne, moins 3 degrés à Dijon, à Rouen, moins 2 degrés en ce moment à Mulhouse et Lille, moins 1 à Besançon, Caen et Tours, 0 degrés à Lyon et Strasbourg, il en fait 2 à Montélimar, 0 degrés également à Paris, 4 à Aurillac, 6 à Bordeaux, 8 degrés à Nice et 12 à Biarritz. Cet après-midi, la moyenne ira de 1 à 6 degrés sur la moitié nord, de 6 à 13 degrés pour la moitié sud.
Et côté ciel ?
Alors, ça sera une journée plutôt agréable avec beaucoup de soleil après dissipation de grisailles matinales sur les Hauts-de-France. On aura un petit peu plus de nuages du sud de l'Aquitaine à l'Alsace et ça toute la journée. Et puis, il reste une petite zone de pluie ce matin. On la retrouve entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Elle résistera sur les Pyrénées dans l'après-midi avec de la neige au-dessus de 1400 mètres. Et puis, les nuages accompagnés de faibles averses arriveront sur la pointe bretonne à la mi-journée. Partout ailleurs, ce sera grand soleil.
La pointe bretonne.
Oui, le Finistère.
Est-ce que vous avez, Céline, des infos sur le week-end ?
Oui, alors la perturbation qu'on voit arriver sur la pointe bretonne, elle va s'étendre à tout l'ouest cet après-midi. On n'a pas parlé du vent, il y en a déjà aujourd'hui. Hein. Sur les Pyrénées, sur les côtes corses et la pointe bretonne justement. Donc ce vent va se généraliser à toutes les côtes atlantiques et les côtes de la Manche demain. On aura cette zone de pluie qui va arriver donc sur tout l'ouest et qui va apporter, comme il fera encore très froid, des zones de verglas le matin. Donc prudence le matin, surtout des Pays de la Loire à la Normandie. Pour les autres, ce sera encore assez ensoleillé sur la partie est du pays. Entre les deux, les nuages arrivent. Soleil qui sera de retour sur la Corse. Et puis dimanche, c'est le redoux qui arrive, on l'a dit. On verra ça en détail un peu plus tard avec de la pluie qui se sera décalée sur l'est du pays.
Merci Céline. Eva.
Alors selon un sondage, seuls 20% des Français partent en vacances à Noël. Est-ce que c'est votre cas ? Et si vous avez la chance de partir, vous partez où ? Faites-nous rêver. Eh bien Laurent nous a fait rêver en nous envoyant ce message. Il nous dit qu'il part à Kittilä, c'est en Finlande, wow, au pays du Père Noël. Pas un centimètre de route de tout son séjour, que de la neige, des rennes et des chiens de traîneau. Sergio, lui, au contraire, il nous dit, eh bien non, pas de vacances à la neige, on en rêve, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et Slyboat, qui nous écoute souvent depuis le Mexique, nous dit, j'ai la chance de faire chaque année au même moment un grand voyage. Je viens en France, je vais pouvoir dépoussiérer mon anorak et mon bonnet qui ne voient le jour qu'une semaine par an. Continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 5-7 placés, il est vrai, sous le signe de la bonne humeur et parfois même de la franche poilade, mais qui sait aussi se faire sérieux quand les temps l'exigent. Ainsi, hier, entre Strasbourg et les Gilets jaunes, Eva Rock avait choisi de poser à nos auditeurs la question qui, je crois, s'imposait, même si elle risquait de diviser les Français, je cite, « Quel est votre bonbon Haribo préféré ?» Oui, elle a vraiment posé cette question et les autres ont vraiment répondu, qui plus est, avec des sous-entendus.
Oh, les ours guimauves aussi.
Oh, oui.
Oh, c'est bon, ça.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi le sérieux du docteur Ichou qui, chaque vendredi, lit pour nous un ouvrage médical. Aujourd'hui, un livre qui nous apprend à déjouer le cancer en modifiant notre mode de vie.
Oh, c'est bon, ça.
En effet, Céline.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce vendredi 14 décembre 2018. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Deux jours de traque et finalement le tueur de Strasbourg, tué hier soir par la police. Soulagement pour les habitants, le marché de Noël va rouvrir dans la matinée. Les gilets jaunes toujours divisés sur la conduite à tenir demain. Beaucoup veulent continuer à manifester en dépit de la menace terroriste. Et puis Ford écarte l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde. 850 salariés risquent de perdre leur emploi. La chasse à l'homme a donc pris fin hier soir à 21h dans le quartier du Neudorf à Strasbourg, là même où Shérif Shekat avait grandi, là où les forces de l'ordre avaient perdu sa trace mardi soir, là où il s'était caché depuis son attaque du marché de Noël, récit d'Alain Co.
C'est l'appel à témoins qui a précipité la fin de la traque. Après la diffusion de sa photo, le terroriste est signalé un peu partout, en Alsace, dans le Jura, dans une voiture en direction de Lyon et même dans un train en Suisse. Autant de pistes qu'il faut vérifier une à une en prenant un maximum de précautions. Mais dans l'après-midi, l'étau se resserre à nouveau dans le quartier du Neudorf, où Shérif Shekat a grandi et où il s'est volatilisé l'autre soir. Une habitante a repéré un homme blessé au bras qui ressemble au fugitif. Aussitôt, c'est le branle-bas de combat. Hélicoptères dans le ciel, raids et BRI dans les rues. Opération spectaculaire et bruyante. Mais en début de soirée, fin du déploiement de force. Un dispositif de surveillance plus discret reste néanmoins activé. Un hélicoptère continue de survoler la zone avec une caméra thermique. Tout va se jouer en fait un kilomètre plus loin, aux abords d'une zone industrielle et du stade de la Méno. Vers 21h, une patrouille aperçoit un suspect correspondant au signalement, anorak noir et capuche en fourrure. Les trois policiers tentent de l'interpeller, mais l'homme se retourne et leur tire dessus. Riposte immédiate au fusil d'assaut. Shérif Shekat s'écroule, mortellement blessé. On retrouvera près de lui le vieux revolver modèle 1892, avec lequel il avait semé la mort deux jours plus tôt dans les rues de Strasbourg.
Alain Akko et le groupe État islamique revendiquent l'attaque, affirmant que Chérif Chekat était l'un de ses soldats.
Ce dénouement, Hélène, est un immense soulagement pour les Strasbourgeois.
Oui, hier soir, dès l'annonce de la mort de Chérif Chekat, certains ont décidé de descendre dans la rue sur les lieux de la tuerie pour rallumer les bougies et pour rendre un dernier hommage aux victimes. Pierre Herbulot était à leur côté.
C'est une sorte de pèlerinage qui commence vers 22h dans le centre-ville de Strasbourg. Rue des Grandes Arcades, place Kléber, rue des Orfèvres. Dans le quartier de l'attaque, Laura et Bérénice se recueillent devant les petits autels faits de fleurs, de bougies et de messages de soutien.
On ne clôt pas le chapitre des personnes qui ont été décédées suite à cette barbarie. C'est pour ça qu'on trouve très très important de venir se recueillir, faire un petit geste rien que ça. Ce qu'on peut faire, on le fait.
C'est dans ces ruelles que tout a commencé. C'est là que tout devait se terminer pour Hugo, lui qui habite dans le sud de la ville.
C'est la fin d'une terrible histoire. Et ça aurait jamais dû arriver. Et on espère, comme tout le monde, que plus jamais ça se reproduira.
Pourtant, tout ne s'arrête pas complètement avec la mort de Chérif Chekat. Elisabeth en a bien conscience.
Après, on n'est jamais à l'abri. Maintenant, c'est vrai que dire faut pas non plus vivre dans la peur. Je pense qu'il faudra quand même un certain temps pour, reprendre une vie normale.
Du temps et des étapes, comme le retour du marché de Noël ce matin. Strasbourg, Pierre Herbulot, Europe 1.
Un marché qui rouvre à 11h précisément. Cette nuit, Emmanuel Macron a remercié sur Twitter l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. Notre engagement contre le terrorisme est total, écrit le président. Rappelons que l'attaque a fait 3 morts et 13 blessés. 3 d'entre eux sont toujours dans un état critique.
À 6h20, nous recevrons le premier adjoint à la mairie de Strasbourg, Alain Fontanelle.
Et notez aussi que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera sur Europe 1 en direct de Strasbourg à 8h15 avec Audrey Crespo-Mara.
Europe 1, il est 5h33.
Seront-ils raisonnables comme le leur demande le gouvernement? Les gilets jaunes sont toujours partagés sur la suite à donner à leur mouvement.
Oui, notamment sur la manifestation parisienne de demain. Certains estiment que la menace terroriste n'est pas une raison suffisante pour mettre leur mouvement en sourdine. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, considère pour sa part qu'il serait de bon ton qu'ils ne manifestent pas pour ne pas surcharger la barque des policiers. Logiquement, la motion de censure présentée hier par la gauche à l'Assemblée a été largement rejetée. Une trahison, c'est ainsi que le ministre de l'économie Bruno Le Maire qualifie la décision du constructeur américain Ford, constructeur qui écarte l'offre de reprise pour l'usine de Blanquefort en Gironde. Plus de 800 emplois directs risquent de disparaître dès l'été prochain. La CGT appelle à une journée d'action aujourd'hui pour demander des hausses de salaire. Pas de perturbations en vue pour le trafic SNCF et RATP, sauf pour certains TER en région et sur la ligne B du RER en Ile-de-France. Et puis Donald Trump a un fan célèbre ici, ce n'est autre que l'écrivain Michel Houellebecq. Toujours adepte de la provocation, il affirme dans le magazine Harper's, Donald Trump est un des meilleurs présidents américains que j'ai jamais vu et il soutient sa politique en ces termes. Les Américains nous lâchent la grappe, ils nous laissent exister.
N'oublions jamais que Michel Houellebecq a beaucoup d'humour aussi. Merci, c'était le journal d'Hélène Zalini. Et Hélène, n'ayez crainte, ce n'est pas le thermostat du studio Lagardère qui est déréglé. Cette onde de chaleur qui nous submerge, c'est simplement Jérôme Lacroix qui vient d'entrer dans le studio pour un nouveau Journal des Sports qui s'annonce comment, Gégé?
Ce sera soit du très lourd, soit seulement du lourd.
Oh, ne soyez pas modeste, je suis sûr que ce sera du très lourd. C'est le Journal des Sports et encore cette semaine, le championnat de Ligue 1 de football chamboulé par l'actualité.
Et oui, 8 rencontres au total sur 10 de la 18e journée sont concernées par un changement en raison de possibles mouvements des gilets jaunes et des mobilisations des forces de l'ordre. Des matchs qui devaient se jouer entre ce soir et dimanche. Alors 5 matchs sont pour l'instant reportés. Sinédier, Dijon PSG, Amiens, Angers, Nantes, Montpellier, Guingamp, Rennes et Marseille, Bordeaux. 3 rencontres ont été déplacées. Nice, Saint-Etienne se jouera dimanche à 17h, Lyon-Monaco se tiendra dimanche également, mais à 21h. Et Caen-Toulouse est programmé mardi prochain, 19h30. Casse-tête en vue pour la Ligue. Il faut trouver de nouvelles dates pour jouer tous ces matchs dans un calendrier déjà bien chargé. Mais les clubs et leurs dirigeants sont extrêmement compréhensifs, à l'image de Saïd Chaban, le président d'Angers.
C'est plutôt que les hommes de sécurité sont affectés à autre chose que la sécurité réellement d'un match. Il y a des priorités dans la vie, ça en fait partie. Moi, on considérera qu'on est en trêve. D'ailleurs, je ne sais pas si le week-end prochain, les matchs se tiendront aussi. Et on considérera que c'est une trêve et qu'on se préparera pour une deuxième partie de saison.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Le foot ce matin, ce sont aussi les Rennais qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Une première pour ces Bretons victorieux hier en dernier match de la phase de groupe des Kazakhs d'Astana 2-0. Ils connaîtront lundi leur adversaire. Les Bordelais, pourtant victorieux 1-0 à Copenhague, sont éliminés. Et les Marseillais, finalistes de la compétition l'an dernier, finissent bien mal. Déjà éliminés avant la rencontre et défaits 3-1 à domicile par les Chypriotes de Limassol dans un vélodrome peu garni. Ils étaient réduits à 10 dès la 7e minute de jeu.
Il faut le préciser. Bien sûr, il faut le préciser, Jérôme. Effectivement, ça peut intéresser les gens. Le rendez-vous sport majeur de ce vendredi, c'est le handball féminin.
Et oui, les Bleus visent la finale du championnat d'Europe en France. Elles doivent dominer ce soir les Pays-Bas en demi-finale. Des Néerlandaises face auxquelles les récents affrontements ont été intenses, mais qui cette année semblent diminuer par l'absence de plusieurs joueuses importantes. Coup d'envoi 21h dans un Paris-Bercy que les Françaises espèrent garni de 15 000 spectateurs.
Et sur quelle chaîne on peut voir ce match ?
Sur TMC, figurez-vous.
Exactement.
Ouais, absolument.
Bien joué, c'est important de le signaler pour ceux qui ont envie de le regarder comme moi. On finit avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Lucas Pouille, le joueur de tennis français qui sort d'une année très compliquée, s'est exprimé pour la première fois sur sa nouvelle collaboration avec Amélie Mauresmo, qui désormais l'entraîne. Lucas Pouille raconte les raisons du choix.
Pour moi, c'est une championne, elle a gagné. Elle a gagné dans les plus gros tournois. En tant que coach et entraîneur et capitaine de Fed Cup, elle a réussi. J'estimais qu'elle a toutes les compétences et toute l'expérience pour m'amener encore plus haut.
Lucas Pouille au micro européen de Corinne Boulou.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Comment vous remercier, Jérôme ?
Plate patte, mais au ketchup.
Je vais voir ce que je peux faire.
Ketchup.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures en goguette avec l'info et le rire évoluant bras dessus, bras dessous. À suivre, toutes nos idées sorties et cadeaux pour les vacances de Noël qui approchent à grands pas. Et puis notre page santé. La médecine requiert, vous le savez, l'expertise d'un professionnel. Et les diagnostics des Varocs étant souvent un peu trop laconiques, voire expéditifs.
Toi, la gastro, c'est dans ton cerveau. Hein.
On fera plutôt appel à un docteur diplômé, hein, le docteur Marcel Ichoux, qui ce matin nous parlera d'un livre passionnant qui nous apprend à lutter contre le cancer avant même qu'il ne survienne, en modifiant nos comportements du quotidien.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Journée calme et ensoleillée. Vous voyez toujours le bon côté des choses, vous, Céline, parce qu'on se les pèle quand même grave.
Oui, ça, on va y venir. On aura juste encore un petit peu de pluie. Vous voyez, il y a quand même des mauvaises nouvelles ce matin entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Un petit peu plus de nuages entre le sud de l'Aquitaine et l'Alsace, et ça toute la journée. Et puis, une nouvelle perturbation arrivera sur la pointe bretonne dans l'après-midi. Mais dans l'ensemble, c'est le soleil qui va dominer, le tout sous des températures, vous l'avez dit, encore très froides, avec une moyenne de moins 6 à 0 degrés ce matin. Un petit peu plus sur la moitié sud. Et cet après-midi, la minimale sera pour Mulhouse, 1 degré. Il en fera 2 à Paris, 3 à Lyon, 4 à Cherbourg et de 6 à 13 un petit peu plus au sud.
Merci Céline. Eva Rock, vous avez la chance de partir aux Maldives pendant les vacances d'hiver. Mais la plupart des Français,
c'est
non.
Vrai. Non.
Et il y a vous leur avez 20%. Posé une question. Effectivement, 20%,
20%
de Français
des Français qui partent en vacances à Noël. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre cas? Et si oui, vous partez où? On avait envie un peu de rêver aussi ce matin. Quentin, il nous dit cette année, comme un an sur deux, je fête Noël avec la famille de ma maman. Et nous avons décidé de partir à Prague cette année. Jérémy, lui, nous dit
très
pas
bon
de voyage,
choix.
Mais 15 jours de repos. Et dans mes rêves, comme dans la chanson, bon baiser de Fort-de-France. Il rêve d'aller là-bas. Voilà. Oh. Mais bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Merci.
Oui,
non,
mais parce que, non, mais Mathieu Charrier se moque de moi. Mathieu Charrier est dans le studio, mais moi aussi, je rêve d'aller à Fort-de-France, je ne suis jamais allé.
Alors que Mathieu Charrier,
lui, en revanche, il connaît très bien.
Je reviens de Pointe-à-Pitre, mais c'est pas grave, c'est là-bas.
C'est pas loin. Je sais bien que vous n'étiez pas à Fort-de-France.
On fera un petit topo géographique.
Mais vous étiez dans les Antilles, cher ami.
Merci Eva, merci à vous surtout, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de notre page santé, bibliothérapie du vendredi, un suppo et on lit. Bonjour docteur Ichoux.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes venu ce matin avec un livre du docteur Martine Pérez et du professeur Béatrice Ferwers qui s'intitule « Le cancer, quel risque ?» aux éditions Couet. Ce livre passe en revue les cancers qui peuvent être évités. Mais comment docteur Ichoux?
Alors, on fait souvent des chroniques, hein, à longueur de temps des chroniques sur le cancer. Mais comme disait Lao Tzu, la pédagogie est l'art de la répétition. En fait, ce n'est pas Lao Tzu, mais j'aime bien citer Lao Tzu.
Ça se trouve, il l'a dit.
Et donc, on va les lister, si vous voulez bien. En premier lieu, le tabac. Ne pas fumer diminuerait de 20% du risque de cancer, ce qui fait globalement 80 000 cas de cancer évités par an. Ce qui n'est pas rien, évidemment.
Premier point.
Ensuite, c'est l'alimentation. Alors, on répète,
moins de sucre, moins de sel,
moins de produits industrialisés. Bon, voilà. Les infections. Alors là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut prendre garde aux infections pour les femmes au papillomavirus, qui est porteur potentiellement du cancer du col de l'utérus. Au niveau de l'estomac, une petite bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui donnent des ulcères, mais qui peuvent évoluer ensuite vers un cancer. Donc, il faut évidemment surveiller ça. Et puis, les hépatites.
Les hépatites, ça B, peut dégénérer hépatite en cancer C.
Oui, à long terme, l'hépatite chronique peut dégénérer sur un cancer. Mm-hmm. Alors, les cancers liés à l'environnement, là, on essaye la pollution, les pesticides, etc. Les hormones, là encore, plutôt chez les femmes qui prennent des hormones après la ménopause, mais il ne faut pas non plus stigmatiser. C'est toujours une question d'équilibre et parfois, on peut en avoir besoin. Le soleil, vous savez ça, tout ça. Et enfin, le stress, les situations de difficulté, les sons pourvoyeurs de cancer propices ou en tout cas concomitantes, faire le lien scientifiquement. C'est plus difficile, mais en tout cas, c'est une réalité.
Je pense que c'est le livre qu'il ne faut surtout pas offrir à Mathieu Noël.
Non, pour Noël.
Je ne vais pas offrir, j'ai déjà repris.
Merci beaucoup, docteur Ishii. On se retrouve lundi, 5h40.
Europe 1. Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, toujours plus près de vous, puisqu'en plus de vous réveiller des 5h chaque matin. Pour ceux d'entre vous qui auraient à se réveiller encore plus tôt, nous mettons à votre disposition un nouveau service baptisé le Morning Glory Garantie. Vous laissez votre demande au 3921 le soir et le lendemain, c'est Eva Rock en personne qui vous réveille en prenant sa voix la plus chaude.
Tu aimes quand je te réveille à 4h du matin ?
Morning Glory Garantie, le service qui fait la différence. À suivre, des idées cadeaux en veux-tu en voilà, avec notamment deux BD qui raviront vos petits-neveux et puis le palmarès des marques high-tech les plus fiables. Il est à découvrir dans le magazine 60 millions de consommateurs et notre expert le décrypte pour vous. L'équipe de Vendredi les bons tuyaux s'échauffe, mais d'abord, un petit intermède musical avec Boulevard Désert, tout le temps sur Europe 1.
T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contre-ex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon kiri, mon petit cœur. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Mon mercurochrome, t'es moins stupide que nous qui sommes des hommes. T'es mon encens, mon parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon cousin quand je chope des invites. T'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant.
Boulevard Désert, tout le temps sur Europe 1, un titre qui plaît beaucoup.
Ça plaît à qui ?
Bah justement, je reste flou, comme ça n'engage à rien.
Il est 5h47.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Shérif Chekat est mort. L'assaillant qui a tué 3 personnes mardi à Strasbourg a été abattu hier soir par les policiers qui tentaient de l'interpeller. Emmanuel Macron a félicité hier soir le travail des forces de l'ordre, tout comme Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui sera d'ailleurs l'invité ce matin d'Audrey Caspomara à 8h15 sur Europe 1. Dans ce contexte, cette question, les gilets jaunes manifesteront-ils demain dans les grandes villes? Certains irréductibles souhaitent maintenir les mobilisations. L'exécutif appelle à ne pas manifester. Sans surprise, la motion de censure présentée hier par la gauche a été largement rejeté à l'Assemblée.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce vendredi 14 décembre. Et à l'heure d'ouvrir notre page pronostic hippique, je tiens ce matin à alerter un confrère, José Covès, sur les risques qu'il y a à prononcer des noms anglais quand on n'est pas anglais. Et que donc, on ne met pas l'accent tonique où il faut.
Jupin Jack Flash.
Attention à la prononciation, José. Jupin Jack Flash, ce Jack Flash pourrait porter plainte. Good morning anyway, José Covès.
Oui, mais en tout cas, j'ai pris la méthode A7000 la plus chère, je comprends pas. Voilà.
C'est incompréhensible.
À Vincennes, au départ de la deuxième course, 18 trotteurs sur la distance de 2850 mètres, grande piste. Mes 5 préférés. D'abord, le numéro 6, Banco Drive. Il nous vient du sud-ouest avec 2 victoires au compteur et il monte à Paris pour faire la fête. Le 3, Balzac, a besoin d'être réveillé par un super Éric Raffin. Baladin de Bray, le 13, boosté par Jean-Michel Bazir, va nous faire l'arrivée. J'en dirai de même du 14 Belle de Rossignol, associé à Speedy le Bourgeois, accélérateur de particules. Quant au 11 Amis de Clairland, c'est un ami qui nous veut du bien. 3 autres possibilités. Le 16 Boloise au fort. Elle doit poser sur la photo finish. Ensuite, le numéro 12 Balina d'Ourville et le numéro 5 Aruna des Jacquets tenteront de refaire par les deux. Mon ticket pour cette deuxième course vers 13h47. D'abord le 6, le 3, le 13, le 14 et le 11. Et l'on ajoute le 16, le 12 et le 5.
Si j'ai bien compris, José, Balzac va mettre pour une fois son réveil à l'heure.
Actuellement, Balzac, c'est la peau de chagrin. Il lui faut donc un super Éric Raffin, un vrai meneur pour sortir de sa torpeur, ce trotteur âgé de 7 ans, pour qu'il retrouve enfin ses illusions perdues. J'ai lu Balzac tout avant de venir.
Ça se sent. Il allie la littérature et les canassons. Il est vraiment trop fort. Merci, José Covès.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Grégoire Martinez pour les nouvelles technologies et celui qui règne de manière jupitérienne sur le service culture d'Europe 1 qu'il coco-dirige avec 2 autres journalistes. J'ai pas très bien compris, personne n'a vraiment compris. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mathieu Charrier est un peu le boss. Un boss qui n'aime pas que d'autres stars lui volent la vedette. Il déteste quand à la machine à café des collègues féminines s'extasient devant un acteur, surtout quand il est moins sexy que lui.
Moi, jaloux de Bradley Cooper.
Vous avez du mal entendre. Mathieu Charrier, ce matin, ce n'est pas l'homme de cinéma qui nous rend visite, mais l'homme de bande dessinée.
Tout à fait.
Évidemment, nous sommes en pleine préparation de Noël et de cadeaux de Noël. C'est pourquoi je compte sur vous pour nous donner des idées BD à glisser sous le sapin. La première, c'est « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ».
Oui, de l'américaine Émile Ferris, qui vient de recevoir le prix de la critique française et qui est l'une des meilleures bandes dessinées de l'année. Elle est d'ailleurs aussi en sélection pour le prochain festival d'Angoulême. Le pitch en quelques mots, nous sommes dans le Chicago des années 60. Une fillette, Karen, âgée de 10 ans, vit dans un immeuble miteux, ses voisins, des immigrés, des déshérités. Il y a aussi sa mère, célibataire, pleine de superstitions, son frère, un petit voyou, séducteur, et puis des BD d'horreur qui s'entassent, c'est ce qu'elle aime le plus, jusqu'au jour où sa belle voisine juive est retrouvée morte, une balle dans le cœur, avec, figurez-vous, toutes les portes de l'appartement fermées de l'intérieur. Alors, suicide, meurtre,
mais c'est pas pour les tout petits.
Va enquêter, c'est pas pour les tout tout petits. Le livre que vous arriverez plus à lâcher, il fait 416 pages avec un dessin enfantin. C'est fait avec un simple stylo bic sur des pages de cahier à carreaux, mais très vite, on dépasse cette première impression pour plonger dans une vraie BD sociétale. Il y a pas de gentil, il y a pas de méchant, il y a de l'humain, il y a des âmes parfois un petit peu tordues, il faut bien le dire. Et puis, il y a aussi l'histoire dans l'histoire, puisque l'auteur, elle vient de publier cette première BD à 55 ans, alors qu'elle a failli mourir quand elle en avait 40, piquée par un mystérieux moustique. Elle aussi était complètement fauchée. Sa BD a été refusé par 48 éditeurs avant de devenir un vrai phénomène. 3 Eisner Awards, c'est l'équivalent des Oscars dans la bande dessinée. En France, elle est sortie chez un tout petit éditeur, Toussaint Louverture. Elle en a déjà vendu 60 000, c'est vous dire. Et vraiment, c'est à ne pas louper. Moi, ce que j'aime les monstres, si votre entourage aime la bande dessinée, vous êtes certain de leur faire plaisir à Noël, ça coûte 35 euros.
Et puis une autre BD que vous nous conseillez de glisser sous le sapin, c'est L'âge d'or.
Oui, qui est dans l'air du temps puisque c'est une histoire féministe sur l'engagement. Notamment, nous sommes au château de Bois d'Armand. Notre personnage principal, Tilda, est une princesse déshéritée et exilée au moment de la mort de son père par son frère, sympa, qui veut en fait tout garder pour lui. Il faut toujours se méfier de ses frères et sœurs. Elle va évidemment tout faire pour récupérer son dû. Début d'une fable à la fois récit politique et d'aventure. Au dessin, on retrouve Cyril Pedrosa, qui est l'un des grands dessinateurs français actuels. Là aussi, vous êtes sûr de faire plaisir avec cet âge d'or. C'est le premier tome d'un diptyque qui est publié chez Dupuis. puis collection Air Libre.
Merci beaucoup.
Moi, je prends les deux.
Allez, madame a les moyens. Merci beaucoup, Mathieu Charrier.
Non, j'attends
Charrier.
Que Mathieu me les offre.
Ah, voilà, évidemment. D'accord.
Comme à chaque fois, c'est comme ça que je peux revenir tous les jours.
À vos côtés, regardez qui voilà Eva, le petit Grégoire Martinez.
Mais il va pas à l'école.
Et non, la direction ne sait pas qu'il a 13 ans. Elle le croit majeur. Pourtant, regardez, un test psychologique très simple aurait permis de détecter la supercherie. J'ouvre un paquet d'Haribo, je lui tends, observez.
Les crocodiles.
Les crocodiles.
Les crocodiles. Ah non, les fraises tagada, c'est dégueulasse.
13 ans. 13 ans. Néanmoins, Grégoire, puisque de toute façon vous avez arrêté le cours d'art plastique, parlez-nous de ce classement réalisé par le magazine 60 millions de consommateurs. Classement des marques high-tech, des appareils high-tech les plus fiables.
Eh bien oui, on voit de grosses disparités entre les produits. L'appareil high-tech le plus fiable, eh bien figurez-vous que c'est votre casque audio, 93,3%.
Oh ben alors là.
Des casques audio ne sont jamais tombés en panne, Mathieu. Alors,
sans rire.
Ouais, vraiment.
Mais j'ai usé un nombre de casques audio, mais tout des plus grandes marques.
Mais qu'est-ce que vous faites avec vos casques ?
Il y a toujours une oreillette qui marche moins bien que l'autre. Bah, rien, physiquement, ils ne sont pas cassés. C'est à l'intérieur, ça se casse. Ou ça, écoutez, ça grésille.
Et sur 693, il reste 7%. En fait.
Oui, c'est ça, je fais partie de 7%, j'ai vraiment pas de bol, moi.
Ouais. C'est ça, bah, vous n'avez pas de chance. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils sont plus résistants que les autres appareils ? Bah, notamment parce qu'il y a moins de technologie dedans que typiquement dans un ordinateur, qui est justement le produit qui tombe le plus en panne. 19% tombent en panne dans les 3 ans et 26% de ces pannes, elles apparaissent même dès la première année. Et pour le smartphone, hein, qui est l'appareil high-tech le plus populaire, le taux de fiabilité, c'est 89,7%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus de 10% sont tombés en panne en 3 ans. Et là, les problèmes apparaissent même généralement très vite, parce que 55% des pannes de smartphone, elles arrivent quand ? Dès la première année.
Et est-ce qu'il y a des différences entre les marques ensuite ?
Bah oui, alors 60 millions de consommateurs l'ont analysé aussi. Et d'après eux, les appareils les plus fiables, ce sont ceux de Huawei, suivis par Samsung, Nokia et Apple. Le dernier du classement.
Ah, dans cet ordre-là, oui.
Ouais,
Apple
exactement, dans cet ordre-là.
Loin.
Et oui, mais alors ils ont d'autres points de satisfaction. En fait, tout dépend des critères qu'on regarde. Ouais. Et le dernier du classement, c'est un Coréen, c'est LG, qui est lui assez. Les gens ont rencontré pas mal de problèmes avec leurs produits. Et du côté des casques audio, hein, qui sont donc les appareils les plus fiables, c'est Bose qui est premier de la classe. En fait, le seul petit bémol de ce classement, c'est qu'il a tendance à favoriser les marques qui vendent des produits plus chers, comme Bose notamment, donc, hein, et qui peuvent faire des produits plus performants.
Le facteur prix n'entre pas en ligne de compte.
Exactement.
C'est performant globalement, forcément.
Enfin, c'est pas les plus chers et c'est le plus fiable.
Ils ont des produits qui sont aussi très chers. Ils ont des smartphones à 900 000 euros.
Ma femme, elle a un Huawei, il est pas cher.
Et la dernière chose, puisqu'on parlait d'Apple, Mathieu, c'est qu'il y a à la satisfaction des utilisateurs, la marque qui arrive très très largement en tête.
Oh bah
c'est
Apple.
C'est Apple. Moi, je viens de casser mon écran ce matin. Il est tombé, j'avais oublié de mettre un petit.
Mais vous prenez rendez-vous au Genius Bar à l'Apple
Mais
Store.
Mais c'est ce que je vais faire.
Ça vous coûtera 600 euros, vous aurez un écran tout même.
Et si je viens de votre part, est-ce que j'ai une réduction, Grégoire ?
Malheureusement,
je viens de Grégoire Martinez, l'expert high-tech d'Europe 1. Est-ce que j'ai droit à une réduction ?
Des iPads gratuits.
Ah, bah c'est pas mal.
Bah oui, c'est...
Merci beaucoup Grégoire pour ces informations. Eva Rock.
J'avais envie de finir la semaine avec un immense sourire et avec ce qui reste pour moi la meilleure émission de l'année 2018. Je veux parler d'un programme ressuscité, Burger Quiz, diffusé sur TMC le mercredi soir à 21h. Alors vous savez sans doute qu'Alain Chabat, l'animateur de ce quiz qui met en scène deux équipes, hein, l'équipe Ketchup et l'équipe Mayo, a décidé de passer la main. Et vous avez peut-être vu Jérôme Commandeur en maître du jeu, avec un Alain Chabat encore très présent quand même.
Bienvenue à tous dans ce Burger Quiz.
Bienvenue à toi surtout, Jérôme.
Merci. Il a un peu de mal à lâcher la main, ensemble. Hein ?
Pas du tout, j'ai juste un gros kiff.
Ouais, bah je vois. C'est bon maintenant, ta gueule, voilà.
Oui, Jérôme, pardon, vous avez raison, parfois il faut tuer le père.
Voilà, il faut surtout fermer sa gueule. Je sais pas comment le dire, mais voilà.
Oui, je ferme ma gueule. Je sens que j'ai été trop loin.
Bah, je crois.
Je vous laisse seul mettre à bord.
Ok.
N'interviens plus.
Non.
Terminé, hop, plus
ok.
Moins. Je zippe. Zip.
Voilà, zip.
Silence radio.
Exactement. Merci Alain.
On n'a pas les images. Et là, c'est en fait
c'est
la voix. C'est la voix.
Exactement. C'est que la voix d'Alain Chabat. Vous aviez tout compris. Alors, les candidats, un ou une anonyme et deux personnalités par équipe, étaient aussi un peu déstabilisés de l'absence d'Alain Chabat, à l'instar de Marina Foïs.
Et moi, j'ai juste une question. Alain Chabat n'est pas là. C'est la première fois que je fais une émission sans Alain Chabat.
Tout à fait.
Il parlait de sa bite au moins une fois par émission. Est-ce que c'est prévu dans le conducteur ?
Écoutez, moi, j'ai un vagin. Mais... Ah bon.
Alors, sincèrement, Jérôme Commandeur, il excelle dans ce rôle. Il est vraiment le gardien du temple de l'esprit Burger Quiz. Tout est drôle, même la question du jeu destiné aux téléspectateurs. 44 minutes de bonheur à revivre sur le site mytf1.fr. C'est le meilleur antidépresseur du moment, pour moi, à la télévision.
De toute façon, concernant Jérôme Commandeur, moi, oui. J'ai cet avis complètement neutre et impartial.
Oui, j'ai
simplement que GG, c'est le meilleur.
Et on est d'accord.
C'est mon avis sur Jérôme Commandeur. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute l'équipe des Bon Tuyaux. On se retrouve lundi. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Personne ne me demande ce que je fais, moi, ce week-end.
Tout le monde. monde s'en fout.
Ok, belle
ambiance. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Du soleil, mais des températures encore très froides.
Oui, le soleil dominera aujourd'hui. Elle sera même largement présente ce matin de la Bretagne à la région centre jusqu'aux Ardennes. Sur les Hauts-de-France, là, on a un petit peu de grisaille. Elle va se dissiper dans la matinée. Le soleil gagnera cet après-midi le nord de l'Aquitaine, le Limousin, la Bourgogne. Il y aura un petit peu plus de nuages du sud de l'Aquitaine à l'Alsace, mais avec de larges éclaircies. Et puis, une nouvelle perturbation. Elle va arriver sur le Finistère dans l'après-midi. Elle apportera de faibles averses. De la pluie, il en reste ce matin des Pyrénées au Languedoc-Roussillon et sur la Corse. Il restera juste quelques gouttes cet après-midi sur l'ouest des Pyrénées avec de la neige toute la journée dès 1400 mètres. Et puis on aura du vent sur la pointe bretonne, les Pyrénées et les côtes corses toute la journée.
Un petit mot des températures.
Elle reste hivernale avec ce matin une moyenne de moins 6 à 0 degrés. Un petit peu moins froid pour la moitié sud hein, où on a 5 à 12 degrés en moyenne. Et puis cet après-midi, on aura 1 degré à Nancy, à Rouen, à Orléans, 2 degrés à Paris et au Mans, 4 à Cherbourg, 5 à Grenoble. Il en fera 7 à Cognac, 9 à Bordeaux, 11 à Nîmes et 13 à Nice. Ça grimpera même jusqu'à 15 degrés à Ajaccio.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.